Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission hebdomadaire d'Arrêt sur Image. La dernière émission de Karine Lemarchand, diffusée sur M6, a atteint des sommets de violence symbolique à l'égard des corps des femmes, sous couvert de lutte contre l'obésité, de santé, de bien-être, avec un fort vernis médical comme preuve affichée de la bonne foi. Eh bien, les chaînes de télé et les productions mettent littéralement à nu les femmes devant les objectifs d'une télé-réalité qui, depuis 20 ans, sexualise, chosifie et infantilise leur corps. C'est le cas donc de la télévision spectacle, celle du divertissement, mais pas seulement. Vous verrez que les médias dits sérieux ou plus classiques aussi contribuent à leur manière. La tendance est de fond, le corps des femmes appartient à tout le monde et surtout aux téléspectateurs. Qu'est-ce que la télé-réalité a permis comme violence à l'égard des femmes ces dernières années? Jusqu'à quel point ces codes ont-ils imprégné un grand nombre d'objets médiatiques? Les limites hier franchies le sont-elles toujours aujourd'hui? Et où trouver d'autres espaces de représentation de corps moins stigmatisants? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui grâce à nos trois invités. Mémona Interman, bonjour.
Bonjour Nassira.
Ravie que vous soyez avec nous en plateau. Vous êtes journaliste, grande reporter. Vous signez une chronique dite « sans filtre ».
Oui.
Chaque semaine dans les colonnes de Midi Libre. Et vous avez été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 2013 à 2019, où vous présidiez, entre autres, le groupe de travail sur la diversité.
C'est exact.
Gabrielle Dédier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice, vous êtes réalisatrice, documentariste. Vous avez signé aux éditions de la Goutte d'Or en 2017 un essai remarqué intitulé « On ne naît pas grosse », dont vous avez tiré un documentaire « On achève bien les gros », produit par Bangoumi en 2019 et diffusé sur Arte. Et puis enfin, Paul Sansfourche, vous êtes journaliste, auteur et réalisateur depuis une dizaine d'années et vous avez travaillé entre autres pour Envoyé spécial. Vous signez ce livre, Sexisme Story, Loana Petrucciani, où vous vous interrogez sur les raisons des haines construites à l'égard de la star de la télé-réalité du tout début des années 2000. Merci à vous trois d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous en parlais en introduction, l'émission Opération Renaissance de Karine Lemarchand est diffusée sur M6 depuis début janvier. Rarement une émission de grand public comme celle-là n'aura fait autant scandale. Cette émission suit le parcours de 10 personnes grosses qui vont subir des opérations chirurgicales pour perdre du poids. Et pour la petite précision, et bien sur ces 10 personnes, il y a 9 femmes, on en voit à l'écran, et un seul homme. Alors Pauline Bock, tu es journaliste à Arrêt sur Image, et puis tu as signé ce papier pour Asie, publié le 11 janvier, intitulé « Opération Renaissance M6, 3 ans de controverse », parce qu'en fait, et bien cette nouvelle émission signée M6 fait polémique depuis plusieurs années, et bien avant la diffusion.
Oui, tout à fait, Nassira. En fait, l'émission est annoncée par la production de M6 en 2017 dans un appel à témoignages et dès le casting, le collectif Gras Politique, qui milite contre la grossophobie, demande l'annulation du programme dans une pétition qui d'ailleurs est signée par plus de 28 000 personnes.
Et qui est toujours en ligne d'ailleurs.
Pardon ?
Et qui est toujours en ligne d'ailleurs.
Elle est toujours en ligne. Et en fait, le collectif craint une banalisation des opérations présentées qui sont lourdes, qui peuvent être mortelles. Et d'ailleurs, ça se voit dans l'émission parce qu'il y a une des participantes qui a une complication au bloc et qui a failli y rester. Oui. Et on voit tout ça dans l'émission. Mais la production n'a pas l'air d'avoir écouté ces mises en garde répétées puisque Karine Lemarchand en fait des tonnes sur la transformation des participants, leur parcours d'acceptation de soi. Mais en fait, l'émission accumule des scènes et des mises en scène qui sont problématiques. Par exemple, celle du chemin de croix, dans laquelle les participants doivent porter sur leur dos des sacs à dos remplis du poids total perdu, comme une sorte de symbolique du chemin parcouru pendant l'émission. C'est une scène qui était déjà présente dans un document de travail en 2018, qu'avait publié BuzzFeed News. Et à l'époque, Gras Politique avait alerté le CSA, l'Ordre des médecins, l'ARS d'Île-de-France, le ministère de la Santé et le Défenseur des droits. Et en janvier dernier, le collectif a signé une tribune sur Mediapart et a lancé le hashtag « Pas ma renaissance » pour dénoncer ce qu'ils appellent un subtil mélange de docu-réalité et de publicité à peine voilée pour les bienfaits de la chirurgie et de certains chirurgiens que présente l'émission.
Et comment Karine Lemarchand défend-elle son émission ?
Mais alors pour elle, en fait, elle défend une idéologie de l'amour de soi. Mais Opération Renaissance, c'est surtout une publicité grandeur nature pour un livre qu'elle a autopublié et qui s'appelle 15 étapes pour apprendre à s'aimer. C'est une sorte de protocole pour, je cite, ceux qui n'arrivent pas à perdre durablement leurs kilos en trop. Donc ça dit tout, hein. Le livre est mentionné dans l'émission d'ailleurs et Karine
Oui, à
Lemarchand le
plusieurs
vend
reprises, on le
pour
voit hein, pendant l'émission, oui, tout à
19,99 € sur
fait.
Internet. Après première, il était en rupture de stock.
Mais, pardon, allez.
et oui, et voilà. Et donc en fait, Gras Politique, une fois de plus, a alerté sur les conflits d'intérêts éthiques et financiers concernant Karine Le Marchand, qui a répondu qu'elle avait strictement rien à se reprocher.
Merci Pauline, vous pouvez donc retrouver son papier très complet sur le site d'Arrêt sur Image. Alors je vous le disais donc dans les premiers épisodes diffusés par M6 en janvier, les téléspectateurs suivent le parcours de 10 personnes, 9 femmes, un homme, jusqu'à leur opération qu'on appelle opération bariatrique, qui consiste donc à enlever une partie de l'estomac. Et parmi les premiers patients, puisqu'il y a un comité médical autour, il y a Stacy, une jeune femme de 26 ans, dont Karine Le Marchand rappelle à plusieurs reprises les difficultés durant l'enfance, la maltraitance physique, le body shaming de la part aussi de certains membres de sa famille. Avant l'étape tant attendue de l'opération, eh bien, elle doit passer par l'épreuve du miroir avec Christina Cordula, qui est également une autre animatrice star de M6, spécialisée dans le relooking. Regardez ces images, mais attention, elles sont quand même un peu choquantes.
Stacy est une jeune femme courageuse qui a toujours affronté les épreuves sans se plaindre. Mais cet exercice va s'avérer plus difficile que prévu.
Oh là là, oh ma chérie.
Oh. J'arrive pas à oh.
Stacy, qui affiche toujours un sourire même lorsqu'elle dépeint la maltraitance qu'elle a subie, s'autorise pour la première fois à exprimer sa peine.
Je pensais être plus forte que ça, mais non.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Je m'aime pas, c'est tout.
On se regarde. Viens. Voilà.
Là, j'ai des plaques quand je stresse. J'ai mon poulet que je déteste là. Mon ventre y pend. Mes jambes sont dégueulasses. Il y a tout qui va pas.
Tu sais, Stacy, tout va changer maintenant.
Ben oui, j'ai hâte, mais bon.
Allez, va te changer, ma chérie. And baby, you're all that I
want. When you lie, est-ce qu'elle est mignonne?
Qu'est-ce qu'elle a souffert, la petite?
Majesté.
Ah. Ça va mieux?
Ouais, ça va mieux, ouais.
T'as pas eu un regard bienveillant jusqu'à présent de la part des femmes de ta famille? Ben non, t'as récupéré deux tatas.
Voilà.
Voilà.
Bon, attends, je vais te faire un cadeau.
Tout comme Elodie, Stacy va pouvoir mesurer l'évolution de son tour de taille dans les 2 années qui viennent.
Voilà, donc ça fait partie effectivement des séquences les plus emblématiques, on va dire, de l'émission. Gabrielle Dédier, vous l'avez regardée?
Oui, je l'ai regardée, ouais, je me suis imposée ça.
Eh oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet extrait précisément?
Alors cet extrait précisément, pour moi, il y a des violences qui sont de plusieurs ordres. Il y a cette violence de cette femme qui est, on va quand même resituer, elle est dans des studios. Elle connaît personne, elle vient, on la met en culotte, enfin en sous-vêtements. Elle a ce corps qu'elle déteste et elle doit l'exposer. Alors déjà, j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de peser le poids qu'elle fait pour être mal à l'aise en culotte à la télé, en fait. Donc voilà. Et donc elle est en plus dans cette détestation de ce corps. Et puis on a Christina qu'on connaît pour toutes ses émissions de relooking. Ouais. Et donc elle arrive et... Pour moi, cette séquence, elle est dure parce que, honnêtement, je connais plus de médecins qui me mettent en culotte pour me peser déjà. aujourd'hui, mes médecins, ils me demandent l'autorisation de me peser. Donc voilà. Et ça, enfin, se regarder. Enfin, je pense que Stacy, on n'a pas besoin de l'avoir en culotte pour voir qu'elle est grosse. Et on n'a pas besoin de l'avoir en culotte pour voir qu'elle est pas bien dans sa peau. Et là, donc, elle est en train. Enfin, il y a une sorte d'autopsie. Donc voilà, ben, y a ça qui va pas, et puis y a ça, et puis elle pleure. Et là, les deux qui...
Oui, et la mise en perspective aussi avec les deux, c'est-à-dire avec ces deux femmes très longilignes.
C'est ça. Et pour moi, là, on a une violence qui est classiste, parce que on a ces deux femmes. On sait que statistiquement, les riches sont plus grands et plus minces que les pauvres.
Liée à une alimentation qui est beaucoup plus riche chez les classes plus aisées et beaucoup plus, on va dire, grasse chez les classes populaires, pour faire...
Voilà, c'est ça, en fait, parce que ça se fait sur plusieurs générations, en fait. Et donc voilà, on a les riches qui, statistiquement, de toute façon, l'obésité, c'est le taux d'obésité chez les 4000 euros et plus, il est à 7%. Chez les gens qui gagnent le RSA, il est à 33%. Hein. Donc, les statistiques, elles font qu'illustrer ce qu'on est en train de voir, en fait. Donc, on a ces deux dames riches, minces, élancées, et qui sont là, qui regardent cette petite dame... grosse, et qui la regarde comme elle le parle de tata. Donc on est dans l'infantilisation la plus totale. Et en fait, je sais pas, je pense qu'elles se prennent pour les fées dans Cendrillon, sauf que pour moi, c'est plutôt Javotte et Nastasie, en fait. C'est un peu les deux pestes qui vont venir voir la
petite... Surtout quand elles murmurent entre elles, toutes les deux, après
c'est
le...
C'est ça, et puisque les mignonnes, on va la sauver, on va l'aider, elle va aller bien. Et au secours, quoi. Ouais. Et donc, moi, je trouve que la violence, elle est vraiment à plusieurs niveaux. Ouais. Elle est là, c'est dans cette souffrance de Stacy et de ce gentil dame qui vont aider cette petite grosse, quoi.
Ah oui. Mais Mona, vous l'aviez regardé, l'émission ?
Je n'ai pas regardé l'émission pour une raison très simple, c'est que depuis que j'ai terminé mon mandat au CSA, heureusement j'ai retrouvé la liberté de mon choix d'émission. De temps en temps, je regarde des émissions qui ne me plaisent pas, exprès, non pas pour m'infliger un mauvais moment, mais pour
rester
à regarder.
Parce qu'avant, vous infligiez ces mauvais moments-là.
J'étais obligée de tout regarder pour une raison simplement de cohérence de mission. Cette séquence est extrêmement choquante, disons-le carrément. À plus d'un titre. D'abord, on voit la personne de face et de profil, au cas où vous l'auriez raté. On aurait pu, du point de vue de la réalisation, montrer la difficulté d'être, qu'on prête d'ailleurs, peut-être est-elle réelle, j'imagine aussi, de cette jeune femme, mais est-ce qu'il fallait vraiment être aussi crade ? Employons le mot. Mais il y a des textes qui protègent la dignité de la personne humaine. On s'attaque à la dignité de cette jeune femme.
Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous étiez membre du CSA, à examiner cette séquence
J'aurais utilisé justement les arguments juridiques qui permettent de mettre en cause un problème qui touche à la dignité de la personne. C'est ça qui est
en cause. Et concrètement, ça
serait
en œuvre comment ?
C'est pire qu'un marché aux bestiaux. C'est pire qu'un marché aux bestiaux. Et en plus, un marché aux bestiaux, c'est pour vanter les qualités, notamment, et les formes d'un animal. Là, vous avez dit, elle est chosifiée. Mais c'est même pire que ça.
C'est un fric, en fait.
C'est pire que ça. Et d'autre part, il est vrai, et c'est difficile de juger la télé des autres, la télé faite par les autres. Mais franchement, est-ce qu'on avait besoin de... Vous avez dit infantiliser. Mais c'est comme les gens, les sous-développés et les surdéveloppés en termes d'accès à l'éducation, à la science, à la culture. C'est la pauvre petite, là, la rien du tout, là. On va te rendre belle comme nous, parce que nous, on est belles.
Mais Mona, vous disiez... Il faut valoriser les arguments juridiques. Mais alors concrètement, quand on est membre du CSA et qu'on regarde ce type de séquence, qu'est-ce qu'on fait ?
On dit que ça ne va pas. D'accord. On appelle d'abord les gens qui sont chargés de mettre à l'antenne ce genre de programme et pas seulement de se réfugier derrière des arguments juridiques, parce que là est le piège. Mmh. Il se peut que les arguments juridiques manquent. Mais c'est de leur dire, est-ce que vous regarderiez une émission de cette nature ? Est-ce que vous emmèneriez vos enfants ? Imaginez que vous ayez un enfant obèse, précisément. Vous feriez ça avec lui ? Vous traiteriez de cette façon-là ? Vous seriez d'accord qu'il soit traité ainsi ?
Ça a pu se passer dans le passé ?
Ah, bien sûr.
Ouais. Et alors, les réponses en face ?
Je n'ai pas le droit de dire ce que j'ai fait, mais c'est le genre de réaction que j'avais. Pourquoi est-ce qu'une citoyenne comme moi, certes journaliste, pourquoi est-ce que j'aurais ma place dans un aéropage tel que le CSA ? C'est pour que, justement, la société puisse y être et respirer et pas seulement se retrouver entre hauts fonctionnaires et des gens très bien qui, peut-être, diraient « Bon, mais ça, c'est les autres. C'est pas nous. Non, c'est nous, la France. On ne traite pas les gens de cette façon-là. »
Alors, visiblement, les alertes au CSA n'ont pas suffi, hein, puisque l'émission a été diffusée. Alors, il y a eu des alertes bien auparavant. Pauline Bock, tout à l'heure, nous l'expliquait. Et puis, il y a eu des appels à l'annulation, tout simple, d'ailleurs, avec cette pétition, l'annulation de l'émission. Gabriel Dédier, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle, quand une émission comme celle-là pose problème, eh bien, on l'annule ?
Alors, moi, j'ai signé la pétition à l'époque où elle est sortie, donc je crois que c'était il y a 3 ans. Ouais. En revanche, je n'ai pas signé l'appel sur Mediapart pour l'annulation de l'émission. Parce que, pour moi, une fois que l'émission, elle était là, elle est là, elle est diffusée. J'avoue que Je suis plutôt... j'essaie de faire confiance aux gens et je pense que ce qui était bien, c'est qu'il puisse y avoir du débat autour de ce sujet. C'est horrible à dire. Il y a eu... normalement, je crois qu'il y avait 5 épisodes de prévus. Il y en a 3 qui ont été diffusés. Les audiences, apparemment, n'étaient pas les bonnes. Et tant mieux. En fait, moi, je préfère croire à l'intelligence des gens et je préfère que les gens boycottent quelque chose qui existe. Pour moi, c'est plus important qu'appeler... qu'appeler à ce que l'émission n'ait pas lieu. Parce que l'émission, là, elle est violente. Stacy, en fait, pour moi, elle a été torturée sur le long de l'émission. Et je dis torturée parce qu'il y a des séquences aussi qui se passent avec le psy sur un canapé qui sont atroces. Oui. Et honnêtement, j'étais vraiment... j'avais vraiment mal au ventre en regardant tout ça. Et je me suis dit, mais... il faut que les gens y comprennent que ça, ce n'est pas une émission sur la chirurgie bariatrique, ça, c'est un freak show. On est dans ça, on n'est pas dans la monstration. Personne n'apprend rien sur la chirurgie bariatrique en regardant cette émission. Je n'ai pas de problème à ce qu'on fasse des émissions sur la chirurgie, par exemple, et de suivre les gens sur leur parcours.
Et pourtant, on en a beaucoup, hein, oui. Enfin, beaucoup. Mais, il y en a des plans, effectivement. Là, on voit, par exemple, Karine Lemarchand presque déguisée en personnel médical. On a les plans à l'intérieur du bloc opératoire où on voit extrêmement bien ce qui se passe à l'intérieur du ventre des patients des patientes. Oui. Donc, on les a, ces images-là. Et elles sont faites pour quoi ? Alors, pour donner un semblant médical à une émission qui est en réalité autre chose.
Bien sûr, parce qu'en fait, les médecins qu'on voit sur le plateau, ce n'est pas les médecins des patientes. C'est un collège de médecins qui a été recréé pour expliquer, pour être plus ou moins pédagogue. Et en revanche, je ne sais pas s'il va y avoir des sanctions sur cette émission, mais moi, je pense que tous les médecins qui sont présents là doivent être sanctionnés.
Pour quelle raison ?
Parce que, enfin, pour moi, au niveau de tout ce qui est éthique médicale, il y a un sérieux problème, notamment tous les épisodes qui se passent avec le psy. Je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui... Enfin, je pense qu'on a dépassé une certaine ligne rouge. Et je voulais quand même...
Psy, c'est Stéphane Clerget qu'on voit là à la gauche avec la veste bleue, ouais, tout à fait.
Et je pense que... Enfin, je voulais aussi dire sur le pourquoi j'étais pas pour une censure une fois que le programme est là. C'est parce que pour moi, en fait, cette émission de télé, elle s'insère dans tout ce que j'appelle la trash télé et la télé poubelle. Et en fait, moi, j'aurais du mal à dire, on censure cette émission, mais on ne censure pas des Pascal Le Grand Frère.
Non, il ne faut pas censurer. Oui, la loi interdit, d'ailleurs, c'est l'article premier de la loi audiovisuelle, c'est la liberté de communication. Et c'est un sujet trop grave pour dire, on censure. Non, il ne faut pas censurer. C'est au public. C'est au public de dire « ça me plaît, ça me plaît pas ».
C'est ce que vous disiez.
Pas de censure.
Ah oui, mais moi, je suis totalement contre le fait qu'on censure l'émission. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas signé l'appel sur Mediapart. Mais parce que pour moi, c'est pareil que... Enfin, à un moment donné, il y a donc cette émission avec les gros, mais juste après le premier épisode, qui finissait quand même assez tard... il y avait une émission toujours M6 sur les régimes avec Mac Lesgui où on suit 4 personnes qui sont en train de maigrir, dont des personnes qui ne sont pas en surpoids. Donc ça pose vraiment d'autres questions.
Et alors pourtant, il y a quand même des scènes qui ont été coupées, hein, devaient être dans le projet, puisque le projet avait fuité, comme on l'a vu tout à l'heure avec Pauline, et qui finalement ont été enlevées. Donc il y a quand même une prise de conscience quelque part de la production et de Karine Lemarchand qu'ils auraient pu aller encore beaucoup plus loin.
Ils auraient pu aller plus loin.
Ou de la chaîne, ou des dirigeants.
Il y avait une des
qui ont parlé.
Une des scènes, c'était Karine Lemarchand prenant dans les mains des lambeaux de peau qui avaient été enlevés du corps des patientes et à être filmée comme ça en plein bloc opératoire.
Mais là, déjà, dans ce qui n'a pas été coupé, elle est quand même à un moment donné avec une bassine et déjà qu'est-ce qu'elle fait au bloc opératoire
absolument là on la voit on va la voir
et elle récupère une bassine elle fait des petites les bassines
qui récupère les lambeaux de peau à l'intérieur des bassines ensuite qui va les peser et donner le poids qui a été enlevé aux patientes
c'est ça donc voilà ils ont quand même laissé je sais même pas ce qui passe dans leur tête pour parce que même dans une émission médicale, je pense qu'on n'en voit pas. Il n'y a personne qui fait le guignol dans
une
émission médicale.
Et là, Mémona, on ne dépasse pas les lignes de l'éthique.
Ah, pour moi, oui. Pour moi, très clairement. Très clairement. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que le régulateur de l'audiovisuel dit de telle séquence. Attendons.
Oui. Alors, il y a d'autres formes d'émissions, de témoignages sur la question de la grossophobie, puisque c'est de ça dont on parle. Par exemple, l'émission qui s'appelle « Ça commence aujourd'hui », qui est diffusée sur France 2, dans l'après-midi, animée par Faustine Bollard, qui se veut être une émission feel good, comme dans ce numéro consacré à la grossophobie et diffusé le 22 septembre 2017.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est de tolérance dont nous allons parler. Parce que nos invitées sont différentes, parce que leur silhouette ne correspond pas aux normes de la beauté, elles souffrent de ce qu'on appelle la grossophobie. Alors en préparant cette émission, j'ai réalisé que consciemment ou non, on participe tous à ce que nos invités se sentent persécutés. Même si on ne pense pas à mal, lequel d'entre nous n'a pas observé l'assiette d'une personne ronde au restaurant, n'a pas détaillé ses courses au supermarché ? Qu'est-ce qui nous dérange en fait ? Et si on essayait aujourd'hui de mettre des mots sur ce qui nous fait peur, c'est l'ambition de notre émission aujourd'hui, se parler. C'est déjà avancé et ça commence aujourd'hui.
Là, vous aurez remarqué la formulation un petit peu maladroite, là, à droite de l'écran, racisme anti-gros. Bon, passons pour ce titre effectivement un peu maladroit. Alors, on sent la volonté de la présentatrice d'être bienveillante, de ne pas tomber dans le trash qu'on dénonçait juste avant, à travers donc les émissions hyper culpabilisantes sur le poids et le physique des femmes. Et vous y étiez, Gabrielle, dédiée à cette émission, avant de vous écouter sur le pourquoi justement on va dans ce type d'émission pour raconter ces histoires-là. Un extrait d'un de vos échanges avec elle.
Moi, j'avais l'impression, si je dis, bah voilà, vous êtes une personne grosse, j'ai l'impression que c'est un gros mot. On dit ronde, on dit, dites-moi ce qu'il faut qu'on dise, en fait.
Ah, moi, je pense qu'il faut dire grosse. Et,
parce que vous utilisez ce mot beaucoup.
Ah, mais je l'utilise quasiment que ce mot. Obèse, moi, je le laisse au médecin. D'accord. C'est un diagnostic. Mmh. Au quotidien, moi, je dis grosse et je pense que les gros doivent dire gros parce qu'il ne doit pas y avoir de connotation péjorative.
Oui, c'est une revendication.
C'est un qualificatif. Et il y a des tas de choses qui sont grosses et que les gens sont contents que ce soit gros. Ils ont un gros compte en banque, ils sont contents. Ils ont une grosse voiture, ils sont contents. Donc,
on va s'arrêter là dans le gros. Voilà. Odido, Déborah. On est toujours contents d'avoir des choses grosses. Déborah a raison.
Mais voilà. Et donc voilà, moi je pense que de toute façon, on est obligé de s'approprier le mot, enfin juste pour que, enfin si moi je le dis dans la bouche de l'autre, ça peut pas être une insulte. C'est une arme qu'il aura pas. Rond, enfin moi je trouve que toutes les périphrases et tous les euphémismes, ils ne confortent, enfin ils font que conforter la grossophobie en fait.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question et c'est intéressant que vous nous donniez cette clé parce que j'ai l'impression d'être maladroite et je sais pas quel mot utiliser.
Alors, c'est intéressant à la fois le fond de l'échange et puis aussi son positionnement à elle, qui est vraiment, qui veut être bienveillante, qui veut aussi vous donner la parole sur comment vous, vous faites le récit autour de ces histoires-là. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on accepte d'aller dans ce type d'émissions qui parfois peuvent être un peu moquées, raillées
Alors, c'est assez compliqué parce que j'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs d'émissions, mais celle-là, je pense que c'est celle qui m'a fait le plus pleurer.
Ah ouais,
vraiment.
Pourquoi, Pourquoi
Parce qu'en fait, déjà, on m'avait pas vendu ce concept-là d'émission, parce que l'émission... En fait, moi, quand on m'a enregistrée, ça n'a pas été la première diffusée, mais ça a été leur premier tournage avec Faustine Bollard. Avant c'était Sophie Davant et ils venaient de changer la présentatrice et donc moi j'avais dit ah non je fais pas ce type d'émission, c'est hors de question. On m'avait pas vendu tout à fait ce projet là, on m'avait pas expliqué que je serais avec une personne en fait qui est mal dans sa peau et qui cherche l'amour et que je serais là en fait en train de venir apporter des petites touches de statistiques et de machin, enfin.
Oui, parce que là, vous n'avez vraiment pas le même vécu du tout, vous et la personne qui est effectivement invitée également
pour
l'émission.
C'est ça. Et en fait, il se trouve que ça a été assez compliqué parce que à peu près tout ce que j'ai dit qui est porté sur les oppressions des femmes, en particulier sur le féminisme, j'étais face à une psy qui était plutôt viriliste, on ne va pas se mentir. À chaque fois que je parlais des femmes, elle me disait... Oui, mais votre livre, il parle pas des hommes. Et en gros, elle me reprochait de ne pas parler des hommes alors que j'expliquais que si le taux d'obésité homme-femme est quasiment équivalent sur la table d'opération pour maigrir, c'est 80% de femmes, et que ça parle de la société et des oppressions qu'elles vivent.
Donc en fait, le discours politique a été complètement supprimé de l'émission. Et en même temps, ce n'est pas tellement étonnant. Quand on regarde l'émission...
Oui, mais en fait, ce qui était aussi violent, c'est qu'il se trouve que la personne qui est à côté de moi a participé à des concours de Miss Ronde. Et on me demande mon avis sur le concours de Miss Ronde. Et donc, je dis à la personne qui est à côté de moi, alors je suis désolée, je vais dire des trucs un peu... je vais dire ce que je pense. mais pour moi, en fait, juste, il faut abolir tout type de concours de beauté, qu'elles soient grosses ou qu'elles soient pas grosses, les femmes, en fait. Et je disais que pour moi, la violence, c'était le concours de beauté et qu'en fait, les Miss Ronde, elles ne font que reproduire en version XL des choses que je trouve déjà limite tout court. Oui. Et donc, je dis que, moi, ça me fait pas rêver les concours de Miss Ronde et que je suis plutôt contre, y compris Miss France, y compris tout ça. Ouais. Pour moi, c'est... Ça ne devrait pas, dans mon idéal, ça ne devrait pas exister. Et là, on me dit, oui, mais c'est parce que... Alors, je crois que ça a été coupé. Hein. Oui, mais c'est parce que vous ne vous en sentez pas capable, en fait.
Oui, alors, je vous rassure, c'est vrai que ça n'y était pas.
Voilà. J'ai regardé l'émission, et donc, en gros, on supposait que j'étais jalouse et que j'osais pas, alors que non, c'était pas du tout le cas. Et j'ai un très mauvais souvenir. On m'a demandé l'année dernière, merveilleux, l'année dernière, j'ai été contactée par une des journalistes de l'émission pour l'anniversaire de l'émission.
Et donc, on me dit, après
oui, donc deux ans après le passage, je crois, on me dit, ah, Gabrielle, on aimerait bien faire l'anniversaire de l'émission. Et donc, on voudrait savoir ce que vous êtes devenue, si vous êtes devenue heureuse, si vous avez rencontré l'amour. Si vous avez un enfant, et j'étais là, mais je vois même pas le lien entre chacun des éléments de votre phrase, en fait. Donc non, j'ai pas trouvé l'amour, non, j'ai pas d'enfant. J'ai dit par contre, entre-temps, j'ai fait un documentaire.
Ça vous intéresse?
Et j'ai dit, si vous voulez m'inviter pour parler du documentaire, je viens
on
parler.
On y reviendra justement. Et vous parliez des fameux concours de beauté, etc. Ça fait partie effectivement des programmes qui sont examinés par le CSA, mais aussi par le Haut Conseil à l'égalité qui a mené un rapport et qui dit que ce sont typiquement de types de programmes bastions du sexisme à la télévision. Mémona Interman, vous étiez donc à la tête du groupe de travail sur la diversité au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui rend un baromètre sur la diversité. Et cette question des apparences physiques, elle n'est pas dans le baromètre, elle n'est pas dans le rapport. Pourquoi ?
Cher Nassira, si vous saviez les combats qu'on a dû mener, que j'ai dû mener à partir de 2013, mais ça avait été entamé avant, pour qu'au moins il y ait un baromètre qui mesure des grandes tendances vues à la télé, même pas à la radio, concernant les pulsations de la société, vous pourrez comprendre que ce devrait être un nouvel objectif, l'apparence des gens. Mais il fallait déjà mesurer la pauvreté, ce qui a été rajouté. Des discriminations qui d'ailleurs se retrouvent, parce que les mécaniques de discrimination se retrouvent entre les personnes grosses, comme vous dites, ou des personnes qui ne sont pas tout à fait dans la norme du point de vue des origines, du point de vue de la pauvreté, du point de vue de ceci, cela. Donc voilà, c'est un objectif, c'est une amélioration à atteindre.
Vous l'aviez suggéré à
l'époque ? On sait très bien, non, pas là-dessus, parce que c'était sur d'autres critères qui font que les gens... Ça pourrait l'être, que les gens n'ont pas de boulot, que les gens n'ont pas un toit. Tout ça, ça participe au même désenchantement dans une société qui prône l'égalité et la fraternité, bien évidemment. Mais on sait très bien que sur cette question de l'apparence, il y a une telle pression au quotidien pour qu'on ressemble à la norme. Et qu'est-ce que c'est la norme ? C'est celle qu'on veut nous faire ingurgiter, et tout petit déjà. Ça nourrit de telles injustices qu'elles devraient y être Alors voilà une proposition à faire.
Il y a aussi d'autres formes de récits que ces émissions de télévision. Il y a par exemple votre documentaire, Gabrielle Dédier, diffusé sur Arte en 2019. On regarde un petit extrait.
Donc l'idée, c'est de travailler le haut du corps, en levant les bras, en descendant. Là, tu me jettes le ballon. Tu descends, on va travailler les cuisses et le fessier et la posture. Tu me gardes le regard toujours face. Tu prends ton ballon, tu remontes. Tu tends les bras, tu ramènes ici et tu jettes. Et ainsi de suite.
D'accord.
Ok ? On va faire ça à peu près 45 secondes.
D'accord, j'ai cru 45 fois.
non, juste 45 secondes, ça sera assez. Allez, on y va. Go !
Ok.
Je m'appelle Gabrielle, j'ai 39 ans, je mesure 1m54 et je pèse 125 kilos. Mon IMC est entre 52 et 53. J'ai tendance à dire que je mesure une Kylie Minogue et que j'en pèse 3.
Là, ça va vite.
On va jusqu'à 45 secondes.
Vous pensez que vous allez regarder un film sur une grosse qui veut perdre du poids? Ben non.
Non.
Vous pensez que je vais vous parler d'une grosse en quête de rédemption? Ben non, toujours pas.
C'est ça. Allez, allez, 8.
Dans ce film, je vais vous raconter une autre histoire, celle de ma vie de grosse, celle de mon quotidien.
10, allez, il m'en faut encore 5. Allez, on tient jusqu'au bout. 1.
Je vais vous raconter comment, lorsque l'on sort de la norme, lorsque l'on déborde, la vie se complique.
3, monte bien.
Je vais vous raconter comment je n'ai jamais été épargnée pour ma différence.
Et 5, tu peux relâcher.
Alors là, on est en contre-pied total avec tout ce qu'on a pu voir juste avant. C'est vous qui prenez la parole, c'est vous qui regardez la caméra, c'est votre récit. Et puis évidemment, ce que vous dites hein, sur l'ironie autour de « je suis dans la salle de sport, mais je ne vais pas vous faire du Karine Le Marchand en fait, en quelque part ». Cette proposition-là, c'est la vôtre à la boîte de production. C'est vous qui voulez raconter cette histoire-là de cette manière-là.
Ah ben alors, ça a été très simple. Quand le livre est sorti, on a eu plein de propositions de boîtes de prod qui voulaient faire un docu sur moi. À un moment, il y a Valentino Berti, qui était à l'époque encore dans l'émission de Yann Barthès, mais qui est maintenant chez Mediapart.
Produite donc par Bangoumi,
voilà,
producteur.
Voilà, c'est ça, qui m'écrit en fait et qui me dit « Gabrielle, j'ai lu ton livre cet été, j'aimerais faire un docu sur toi ». Et j'ai dit « Ah non, tu fais un docu avec moi ». Et donc elle me dit « Moi, ça me va ». J'en parle au producteur et en fait pour moi il était...
Et dès le départ vous lui dites ça hein.
Ah oui, ah ouais, ouais. Moi c'est hors de question qu'on me mette entre les mains de quelqu'un qui n'est pas moi. Enfin, je savais ce que je ne voulais pas. Mmh. Je sais qu'on parle beaucoup de male gaze quand on parle des femmes qui sont filmées, etc. Et ben moi j'avais peur en fait du regard
du woman gaze ouais, sur vous-même
et même du skinny gaze ou du teen gaze, enfin du regard du pas gros sur le gros et sur le et donc voilà, et donc pour moi c'était indispensable que je sois à toutes les étapes et donc que j'écrive, que j'écrive, que je co-réalise, que je sois aussi mon regard sur le montage, enfin. En fait, à partir du moment où j'incarnais le truc, c'était comme pour mon livre, en fait. Ouais. À partir du moment où j'incarnais le truc, il n'y avait pas moyen qu'on m'impose quoi que ce soit. Mais c'était vachement intéressant, hein, parce qu'en fait, donc on était 3 co-réalisateurs. Et donc c'était vraiment très intéressant de travailler tous les 3 parce que ben, y a des questions qu'évidemment personne ne pouvait se poser et des questions qui étaient des fois juste pratiques sur, ouais. sur est-ce qu'il y a des scènes qu'on va pouvoir faire 50 fois genre quand je monte dans les escaliers, combien de fois on va pouvoir le faire toutes ces questions en fait et aussi ma volonté quand j'ai fait quand on m'a dit oui pour le docu, ça a été de donner mon livre à toutes les personnes qui travaillaient avec nous.
Donc toute la chaîne, en fait.
Assistant ouais. réalisateur, le mec du son, enfin, tout le monde. Enfin, mon livre, je l'ai distribué.
On leur a demandé aussi de faire des fiches de lecture.
Ah, mais non, mais ça va être bien lu. Mais parce qu'en fait, je sais que... Je sais comment on filme les gros, parce que quand Geoffrey Le Guilcher m'avait proposé de faire un livre sur
donc des éditions de la Goutte d'Or.
Voilà, sur les gros, la première chose que j'ai faite, moi, c'est passer 2 mois d'été à regarder absolument tous les programmes où des gros apparaissaient. Et j'étais là et j'avais un tableau Excel où je mettais la façon dont on leur parlait, les mots qui étaient utilisés. Enfin, vraiment, j'ai fait une analyse sémantique, une analyse filmique. J'ai tout analysé. Et là, je me suis dit, OK, donc les gros, quand on te les montre, c'est soit parce qu'ils vont rentrer dans un process d'amaigrissement, soit dans des émissions ultra putassières de montrer que c'est des pauvres qui savent pas
qui sont en dépression
que j'appelle les affreux salés méchants pour faire référence au film
et parfois tout ça est cumulé hein. C'est le cas par exemple dans Opération Renaissance,
c'est ça, et donc enfin voilà, pour moi avoir la main dessus c'était obligé. Et d'ailleurs enfin depuis que mon docu est sorti, j'ai encore des gens qui encore des réalisateurs qui me contactent pour me dire j'aimerais faire un truc, j'aimerais que tu sois là. J'ai de là, mais t'as toujours pas compris, mec, en fait. c'est moi qui me filme. Enfin, OK, j'accepte évidemment de venir à la télé, j'accepte qu'il y ait des petits reportages pour les journaux télé, pour des émissions, mais je refuse qu'il y ait un documentaire où je n'ai pas cette main-là, en fait, cette prise-là, parce que pour moi, c'est trop important. Et puis, j'aurais eu l'impression de me faire voler quelque chose, en vrai.
Oui, ouais, bien sûr. Mais alors, il y a d'autres registres où il y a une violence à l'égard des corps des femmes, c'est la télé-réalité. En raison de l'apparence physique des candidates. Et c'est le cas d'ailleurs de Loana, star de la télé-réalité, première star de la télé-réalité au début des années 2000. Alors qu'elle soit mince, très mince, grosse, ronde, dénudée, habillée, sexy, classique, son physique est en permanence commentée, mais aussi, vous allez le voir, moquée à des fins publicitaires. Regardez.
Loana, je t'explique.
Oui.
On m'a demandé à moi de réaliser une pub pour un jacuzzi.
Génial.
Spielberg, Scorsese, on tape au milieu, qu'est-ce que t'as dit? Donc là, tu vois, j'ai réuni mon équipe marketing. On réfléchit, on dit qu'est-ce qu'on va faire? Jacuzzi, villa, bim. L'idée de génie.
Loana.
Évidemment.
C'est gentil.
Et là, je me suis ressourcé. Comment on va la jouer? Tu rentres, soupe sur les jambes.
D'accord.
Là, grâce, Baywatch, hop, tu rentres, hop.
Voilà.
Hop, tu vois comme ça, et là, tu penses à De Niro, tu fais, oh, tu prends le temps. Hein.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on est bien dans le jacuzzi.
Ouais, je comprends que tu aies pensé à moi.
Bah pourquoi?
On n'a pas changé, toi et moi. Allez, viens m'aider, va.
C'est quoi ce truc de ouf? Enlève.
Gracia.
Remets. Enlève. Chérie, on va chez les filles.
Voilà, alors nous sommes en juin 2017. C'est un spot publicitaire, comme vous l'avez vu, de l'enseigne Jiffy, diffusé sur Internet. Alors, pour rappel, Jiffy, le slogan, c'est « Jiffy des idées de génie ». Voilà, je ferme la parenthèse. La publicité fait scandale à l'époque, mais alors, elle est toujours visible sur la page Facebook de l'enseigne. L'enseigne ne l'a pas supprimée. Ces humiliations sur le physique de Loana, 8 ans après sa participation à Love Story, vous en parlez dans votre livre « Paul s'en fourche ». Et notamment dans 2 chapitres, « Elle a pris cher » et « La haine des corps ». Et en fait, ce que vous dites, ce que vous écrivez, eh bien, c'est que son apparence physique, son poids devient le quasi seul sujet de couverture de la presse People, mais aussi de la presse généraliste pendant des années. Et vous écrivez « Le body shaming est le fil rouge de l'existence de Loana ».
Ben, c'est amusant d'ailleurs que Gabriel soit sur le plateau parce que pour moi c'est vraiment, ça a été le déclencheur en fait de mon livre, son livre « On n'est pas grosse ». Je lisais une citation de Daria Marx qui est citée donc par Gabriel dans son livre et qui justement parle de Loana en disant voilà, à 20 ans, elle est l'archétype de la femme dite parfaite, évidemment qui obéit au male gaze. On la critique pour ça.
Male gaze, et, on regarde des hommes.
Voilà, regard masculin imposé par la publicité, les réalisateurs, enfin voilà, tout ce contexte-là. Et à 40 ans, quand elle devient obèse, quand elle devient grosse, à nouveau, en fait, c'est une somme de critiques, on la fustige pour son corps. Et effectivement, Daria Marx dit, c'est l'incarnation que le corps des femmes a toujours tort. Et ça m'a vraiment frappé.
Le corps des femmes a toujours tort.
Oui, c'est ça, le corps des femmes a toujours tort. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, effectivement, moi, en tant qu'homme, j'ai consommé ces images-là de Loana, alors surtout dans le Loft, parce que j'étais un grand fan, et à 16 ans, j'ai vraiment tout regardé, et j'avais été très marqué par la scène de la piscine, et ensuite, plus tard, de la nuit avec Jean-Édouard. Et quelque part, j'ai consommé ces images-là sans avoir aucune empathie, aucun questionnement en fait sur ce que je voyais. Alors d'accord, j'étais adolescent, mais même après en devenant homme, je suis pas, j'ai pas réfléchi à nouveau à ces images-là. Et par ailleurs, je suivais Loana de manière de loin, je dirais, par des articles de presse People ou voilà qui s'étalaient effectivement sur ses difficultés. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toute une sorte de représentation. Qui passait complètement outre en fait la personnalité qu'elle pouvait vraiment avoir. Je m'étais jamais intéressé à elle en fait finalement. Et tout se résumait à son corps, à une sorte de chronique de son corps, qu'il soit mince, jeune, obèse. Voilà, c'est vraiment une sorte comme ça de permanence, de chronique de la presse, de ses évolutions physiques, et avec quelque chose d'extrêmement... on assimile en fait son état physique à son état mental. C'est-à-dire que quand Loana maigrit, on dit « Ah, c'est super, elle va mieux ».
Elle va mieux.
Et puis quand elle reprend du poids, on dit « Ah, bah, là, mon Dieu, elle est en train de rechuter ». Enfin, c'est complètement fou, en fait, de, comme principe, je dirais, d'assimiler la minceur à un état mental sain. Et à l'inverse, évidemment, de dire que quand quelqu'un prend du poids, c'est qu'il va mal. Donc, voilà, c'était tout ce genre de petits phénomènes en fait, qui m'ont vraiment intrigué. Je me suis dit qu'il y avait derrière quelque chose de sans doute très significatif, de très symbolique sur le corps des femmes et la manière dont il était médiatisé en France.
Et alors, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, il y a une économie médiatique qui se crée à partir de Love Story et à partir de toutes ces images et ces émissions de la télé-réalité, où on fait en fait un business médiatique autour des difficultés vécues par les candidats, que ce soit Loana ou d'autres. C'est le cas, par exemple, d'une émission qui s'appelle « Zéro complexe », diffusée sur une chaîne qui s'appelle Star 24, disponible à l'époque sur les box internet et sur internet directement sur YouTube, et qui est en fait en réalité une sorte de d'ancêtre d'opération Renaissance, alors aux images beaucoup moins léchées, mais toujours avec cette idée de suivre le parcours avant, pendant et après la chirurgie. Et Loana, effectivement, y a participé et elle a bénéficié, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, elle a fait une opération de chirurgie bariatrique. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, Loana, elle, avec tout l'antécédent qu'elle a avec Love Story, avec tout ce qu'elle a pu faire en termes d'émissions médiatiques autour de sa participation à Love Story, eh bien, elle pose ses conditions. Elle dit, voilà, je le fais, mais avec mes conditions. C'était quoi ces conditions à Loana ?
Alors en fait, quand on lui propose l'émission, Loana, elle n'est pas dans une optique de chirurgie bariatrique. Elle pense à une liposuction, voilà, quelque chose d'un peu plus soft. Une fois arrivée, donc ça se passe en Tunisie, une fois qu'elle arrive en Tunisie, la clinique lui propose une sleeve. Donc une sleeve, qu'est-ce que c'est ? Et Gabriel, reprends-moi si jamais je fais une erreur, mais c'est l'ablation d'une partie de l'estomac pour contraindre justement la patiente ou le patient à maigrir en fait par le fait de simplement de moins bien ingérer une moins grande quantité en tout cas d'aliments, et ça Loana n'y est pas prête et donc elle refuse, elle dit voilà, moi je suis pas venue pour ça, et donc elle participe au programme vraiment à minima, voilà, elle associe son image mais elle s'en va, et en fait c'est d'elle-même qu'elle revient dans la même clinique avec le même chirurgien qu'elle a rencontré pour subir donc cette intervention, voilà, elle a eu le temps d'y réfléchir. Évidemment, ce qui est vraiment problématique, c'est qu'en France, ce genre d'opération est évidemment très, très fortement encadré, même s'il y a parfois aussi des dérives. Mais en tout cas, en Tunisie, ce n'est pas du tout le même protocole. Et notamment, les contre-indications majeures dans ce genre d'intervention, c'est de ne pas être dépressif, de ne pas subir, enfin, de ne pas connaître encore des troubles du comportement alimentaire, de ne pas avoir de troubles d'addiction.
Oui.
Ça, c'est des critères que Loana ne peut pas remplir. Elle est polytoxicomane, c'est connu, elle est suicidaire, elle a des troubles psychiatriques importants.
Mais ça passe quand même.
Évidemment, voilà, là, ça ne pose pas de problème, elle est opérée et c'est une prise de risque majeure pour sa santé. Et là encore, quand elle revient et qu'elle fait son comeback en tailleur noir, mince, avec une sorte comme ça de présentation très classe, tout le monde se félicite de ce qu'elle a fait.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous énumérez les cas extrêmement graves qui se sont produits dans cette clinique privée de Tunisie, avec des morts de patientes à l'issue de ce type d'opération. Et dans le livre, d'ailleurs, Gabriel Dédier, vous intervenez, et Paul Sansfourche écrit que vous dites que ces émissions-là et cette participation de Loana avec cette opération, ça a un impact en fait, direct sur un certain nombre de personnes qui en fait réclament finalement la même chose.
Bien sûr, en fait, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir. C'est que quand Paul parle de Loana et de comment en gros il la consomme, qu'il parle de son regard masculin, moi j'ai envie de dire, les femmes, on n'est pas non plus des saintes quand on regarde Loana. Qu'est-ce qui nous rassure chez Loana, en fait, c'est que il y a un truc chez alors les femmes qu'on va appeler les bimbos et que Loana représente, c'est que La bimbo, elle rassure la femme normale parce qu'elle se dit, ah oui, mais ok, elle a tout ce qu'il faut physiquement, mais bon, enfin, elle a quand même un peu cruche, puis qu'est-ce qu'elle fait dans cette piscine? Oh là là, oh mon Dieu. Et en gros, enfin, la femme, elle n'est pas plus compatissante envers l'Ohana que l'homme, en fait. Donc, je pense qu'on est tous un peu... Quand on regardait ces émissions, enfin... quand on regarde, c'est pareil, les émissions de télé-réalité où les femmes sont dans tous les stéréotypes, parce que le physique des femmes a changé au cours des années et des émissions de télé-réalité.
On va y aller là, par exemple, hein, on a les Marseillais à Dubaï qui ont démarré il y a quelques temps, et on voit l'archétype en fait des candidates qui sont des candidates extrêmement fines, pulpeuses, souvent dénudées, qui ressemblent finalement un peu à l'image de Loana, première Loana de Love Story 2001, mais avec, et donc les cheveux longs, etc., mais avec toujours quand même, voilà, vous avez des brunes, vous avez des moins blondes, etc., ouais. Mais en tout cas, l'archétype, celui-ci, il est là.
Voilà, parce que la différence entre le premier Loft, c'est que Loana, c'est l'exception dans le Loft.
Exactement.
Les autres sont ordinaires, hein, physiquement, enfin, ils sont...
Ou alors, chacune est censée représenter... un groupe de femmes. Donc, effectivement, Loana, on a aussi Kenza, on a Delphine, qui est celle un peu plus naturelle, brune de décrofrage. Voilà. Oui. On a un archétype féminin pour chacune, effectivement, des filles qui participent au Love Story.
C'est ça. Mais typiquement, là, dans les nouveaux archétypes qu'on vient de voir dans les nouvelles émissions de télé-réalité, elles sont plus, en fait, toutes des, j'ai envie de dire, des variants Loana.
Ou certains diraient aussi Nabila.
Ou Nabila, mais en fait, enfin, on arrive dans, il y a plus ces physiques qui étaient plus ordinaires que, enfin voilà, Loana c'était la blonde avec une plastique irréprochable, etc. Et les autres avaient d'autres physiques et des physiques qu'on croise plus dans la rue. Là, en fait, ils ont tous des physiques, qui sont déjà en fait stéréotypés, mais des variations en variation. Et en fait, enfin, quand le problème avec l'émission dans laquelle la Zéro Complexe, c'est que déjà, le présupposé de départ, il est un peu foireux, c'est que on propose à Loana une sleeve dans une émission de chirurgie esthétique. Non, en fait, la sleeve, l'obésité, c'est une maladie. Enfin, c'est pas de la chirurgie esthétique. Se faire couper aux trois quarts l'estomac pour maigrir, c'est pas de la chirurgie esthétique.
C'est un problème de santé publique avant tout.
Exactement. Et en fait, s'il y a des protocoles, si c'est encadré par la sécurité sociale, quand vous allez faire une rhinoplastie parce que vous avez une bosse sur le nez, par exemple, il n'y a pas un protocole de 6 mois avec la sécurité sociale.
Ouais, ouais.
Quand vous faites une chirurgie bariatrique, normalement, il y a ce protocole avec tous ces experts qu'on doit voir, un collège de médecins, oui, non. Après, il y a des tas de dérives, il y a des tas de choses qu'on peut dire sur ça, mais... être dans Zéro Complexe et se voir proposer une sleeve, ça met en plus dans la tête des gens que, la chirurgie bariatrique, finalement, c'est que de la chirurgie esthétique, sauf que le taux de suicide pour une personne qui est opérée d'une chirurgie bariatrique, elle est 4 fois supérieure à la population dite lambda, quoi. Les reports d'addiction, il y a des tas de problèmes de santé. Quand on fait une opération du nez ou une liposuccion, on ne doit pas se supplémenter à vie en vitamines. On voit pas des tas de choses en fait, qui apparaissent. Donc, ce postulat de départ, c'est un vrai problème. Et effectivement, après, est-ce que les gens ont envie de se faire opérer quand, mais moi, la première, en fait, j'ai envie de vous dire, quand je fais mon enquête et que je regarde ces émissions, parce que Opération de Renaissance, ça s'inscrit dans quoi? Ça s'inscrit, en fait, d'abord dans les émissions de télé-réalité qui s'appellent les Extreme Makeover. Et il se trouve que W9, qui est le groupe M6, a une émission qui s'appelle Extreme Makeover Obesity, où il y a un coach hyper sexy, hyper beau, qui vient chez des nanas qui pèsent, et des hommes aussi, pardon, des femmes et des hommes qui pèsent 150, 200 kilos. Il vient, il s'installe chez eux, il perd 100 kilos. À partir de 50 kilos, si tu perds 50 kilos, je t'offre une voiture. Si tu perds autant de kilos, je t'offre la chirurgie réparatrice. Il y a des carottes au bout, c'est filmé à l'américaine, oui. Dans l'excès, etc. Et Opération Renaissance, en fait, ça s'inscrivait dans ça, à la française. Sauf que, bah, heureusement pour nous, ça fait un flop. Mais en fait, tout ça, ça incite... Enfin, même moi, quand je vois... Ben voilà, il est parfait. À chaque fois que je le vois, je me dis, mais qu'est-ce que Chris est beau. Et Chris, il arrive, c'est un ange, quoi. Il est là... Mais je vais te sauver. Et puis, il les touche, il les prend dans les bras.
Mais il y a quand même un peu de ça dans Opération Renaissance. Elle le dit, Karine Le Marchand, Stécie, tu verras, tout va bien se passer maintenant. Paul, vous vouliez rajouter quelque chose, rapidement?
Oui, en fait, justement, ce qui est aussi choquant dans Opération Renaissance, c'est qu'il reprend tous ces thèmes de la télé-réalité, toutes ces recettes, en fait, de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on fait de l'obésité un show type Les Marseillais, ou voilà. Et ça, c'est une logique qui met... plusieurs années à aboutir, qui commence des années 2010, par exemple avec Loana, où elle arrive dans plusieurs programmes type Les Anges, où on orchestre aussi son comeback, sa perte de poids extrêmement rapide. Et tout ça, ça prépare aussi les esprits à des émissions de plus en plus trash.
Et Mimona Interman, au CSA, donc vous y êtes entre 2013 et 2019, est-ce qu'à un moment, vous tapez collectivement du poing sur la table, ou vous-même, puisqu'on sait que vous êtes... vous avez le verbe fort, en disant, voilà, il y a trop de téléréalités comme celle-ci. Il y en a trop. Il y en a trop dans les émissions, dans les chaînes type M6. Il y en a beaucoup trop dans les chaînes gratuites de la TNT.
Il y a eu un travail qui a été fait par le CSA sur le sujet de la téléréalité, oui. Maintenant, je ne vais pas vous donner des indications sur l'intérieur du sérail, parce que ça me serait interdit, je pourrais aller en tôle, donc je pourrais m'apporter des oranges.
Et alors, du coup, vous, comment vous avez vécu l'évolution de la télé-réalité depuis votre
avec
tour
l'évolution
de contrôle
avec l'évolution des écrans, c'est-à-dire que peu à peu, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des codes qui appartenaient à cet univers-là, qui allaient de plus en plus loin. Parce que pour appâter le téléspectateur, il faut lui donner de plus en plus... supposer, lui donner de plus en plus d'émissions qui vont au-delà de ce que la sensibilité est capable d'accepter. Je pense que c'est un sujet qui évolue, donc le régulateur de l'audiovisuel pourrait s'y pencher à nouveau, puisque ce travail date déjà d'au moins 3 ans, je dirais. Entre-temps, on a vu ce qu'on a vu. Je suis extrêmement étonnée que ça passe. Que ça passe, qu'il y ait 3 numéros déjà, 2 autres sont en préparatif, que des images aient pu être enlevées montrent combien la tentation est d'aller très loin pour séduire le téléspectateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle guerre. Il faut revenir à l'essentiel aussi, c'est que nous sommes préoccupés là par des questions d'ordre éthique, en particulier de respect de la personne, parce que c'est ça qui est en cause. Et quand vous avez expliqué combien tout cela est vicieux d'une certaine façon, on touche à d'autres problématiques autour de la stigmatisation de tel groupe de population ou de telle personne ayant tel parcours, telle origine, etc. Les mécaniques, au fond, ne sont pas si lointaines. Et donc, aujourd'hui, le régulateur devrait regarder un peu si... on ne va pas trop loin dans ce domaine-là, sur l'effraction qu'il peut y avoir dans la population. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a tant de chaînes aujourd'hui, c'est que la bataille pour la conquête de l'attention, de comme disait Lelay, l'attention, c'est de l'argent, c'est de la pub. Donc ça ira de plus en plus loin et on ne va pas
les effrayer. Les patrons de chaînes vous le disent quand vous les recevez?
Ma chère, la télé, c'est du business comme un autre. Ça... je m'en suis fait une raison en étant au CSA. J'ai vu de l'intérieur du système et je n'ai plus du tout d'illusions sur le sujet.
Donc là, c'est les limites en fait du régulateur finalement. On touche vraiment aux limites du régulateur.
Ah, alors, les membres du régulateur sont nommés par le pouvoir politique. Et on voit bien que de plus en plus d'ailleurs, les nominations concernent des personnes qui... peuvent être utiles sur des sujets autour des technologies, du découpage du paysage en termes de pouvoir technologique par rapport aux GAFAM, etc. Mais
donc,
n'oublions pas la société.
Mince,
mais qui regarde la télé? Ce sont les gens. Donc mettez dans un régulateur d'audiovisuel aussi, je sais pas, des sociologues, des gens qui... ont le spectre ouvert, des réalisateurs, des gens qui ont le spectre ouvert sur la société et pas que des spécialistes qui voient, certes d'une façon extrêmement pointue et extrêmement éduquée, instruite, mais sans voir l'essentiel. L'essentiel, c'est que la télé, c'est fait pour les gens.
Là, alors, on a beaucoup parlé de la télé-réalité, on a parlé aussi de ces émissions de divertissement, mais alors la question de comment...
Pas avoir peur aussi de sanctionner, hein.
Absolument. Mais alors, du coup, effectivement, avec les limites du rôle du CSA ou de ses attributions, ça peut être un peu compliqué. Mais alors, du coup, donc, divertissement, télé-réalité, mais ça touche aussi à la façon dont on réalise des émissions de télévision liées tout simplement aux journaux télévisés, la façon dont on filme, par exemple, les femmes à l'écran qui présentent les JT. On va regarder un peu un petit patchwork de femmes qui ont présenté les journaux ces dernières années. Donc là, on est en 2004, Claire Chazal, que vous avez reconnue, sur TF1, qui présente le journal Assise. C'était encore le cas à l'époque. Pareil, sur France 2, Béatrice Schoenberg. On est toujours en août 2004. Et puis alors, plus tard, et c'est effectivement des images de cette semaine, Anne-Claire Coudray, le JT du 21 février 2021 sur TF1, là, de plein pied, à plusieurs reprises durant le JT, et la même chose pour Anne-Sophie Lapix, filmée de plein pied, et c'est le cas régulièrement sur les deux chaînes, s'agissant des journaux télévisés. Qu'est-ce que ça change, Mémona Interman, de filmer une femme qui présente les journaux assise et de la filmer quand elle le fait debout ?
Debout, on voit tout, forcément. Mais je dirais que c'est surtout la tentation de montrer la vie d'une façon un peu plus dynamique. Pas seulement la femme tronc, on n'est plus la femme ou l'homme tronc, on voit la totalité. Donc ça fait partie aussi du spectacle. On dit, ah tiens, elle a un pantalon comme ci,
un
chien.
Mais là,
vous avez remarqué,
j'ai remarqué,
c'est un spectacle, c'est aussi un spectacle, c'est aussi la guerre pour conquérir le maximum de gens. La première chose qu'on fait le matin, c'est de regarder combien on a fait par rapport aux concurrents, voyons.
C'est d'ailleurs les écrans à France Télévisions, moi ça m'a marqué, les écrans à France Télévisions, quand vous arrivez dans le bâtiment, vous avez les audiences de la veille qui sont sur les écrans.
C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, même pour le secteur public. Mais au moins aujourd'hui, les femmes ont le droit de... Bon, il se trouve que certaines choisissent quand même d'avoir les cheveux tirés, mais on peut avoir des cheveux longs et comme ça. C'était extrêmement compliqué au moment où, par exemple, quand je présentais le soir 3 et de temps en temps le 19-20, il fallait être dans l'archétype de Christine O'Krent, c'est-à-dire assez masculine. De toute façon, c'était le style de Christine O'Krent. Bon, ça lui allait très bien. Mais,
Christine O'Krent, donc.
voilà. Moi, j'étais la roue de secours et j'ai présenté le soir 3, surtout l'été. Bon, l'été, c'est plus léger, etc. Je parlais de sujets graves. Il y avait souvent des guerres l'été, d'ailleurs. Mais avec ma présentation à moi, mes robes colorées, ça se faisait pas beaucoup, mes cheveux comme ça.
Mais alors, du coup, c'était le modèle ?
Christine était le modèle et toutes les femmes qui présentaient les journaux, si vous regardez l'époque, vous allez voir, essayaient de copier Christine O'Krent. Moi, je trouvais qu'elle avait des choses à copier, ou vous pouvez s'inspirer d'elle sur son intellect, par exemple. Mais sur son côté physique, j'aimais bien Christine, je pense qu'elle m'aimait bien aussi.
Alors, il y avait aussi Élise Lucet, pareil,
les cheveux très courts. Mais il fallait être. Voilà.
Il y avait également Aubry Edler.
Parce que ça faisait sérieux. Il ne fallait pas avoir les cheveux comme ci, machin, même éventuellement un décolleté. Moi, j'aimais bien le décolleté quand j'étais plus jeune. Mais et alors, et pourquoi pas mais, ça ne correspondait pas au code. Alors, c'est les mecs qui prenaient les décisions quand même de mettre les femmes à l'antenne. Qui vous croyez ? C'était les mecs.
Voilà, on vous voit là à l'antenne.
Ah ben dis donc, j'ai les cheveux vachement courts là alors.
Oui, voilà. Finalement, vous ressembliez plus à Christine O'Krent qu'à Mémona Interman aujourd'hui avec les cheveux plus longs.
Quand même. Oh là là, bon, c'était salut, il y a longtemps.
Et alors, comment on réussit à s'imposer pour changer ce code-là ? Comment on fait ?
D'abord, il y a une personnalité. Chacun doit garder sa personnalité. Moi, vous écoutant, là, toutes les deux, vous avez l'une et l'autre vos personnalités. La plus grande difficulté dans la vie, c'est bien de rester soi-même. Il y a une très jolie phrase de... Pas pour faire l'importante, mais j'ai retrouvé une phrase d'Albert Camus là-dessus. C'est sur la difficulté d'être soi-même. C'est un combat de toute une vie. Alors, on peut être à la télé... Faire de la télé, faire du journalisme, tout en étant soi-même.
C'est oui, certainement
de plus en plus compliqué.
Mémona, mais
c'est... À la télé,
non, il n'y aura pas une grosse à la télé. Voilà, bah, parce que du coup, d'avoir une grosse à la télé.
Mémona,
hein.
Mémona,
pas.
Justement, par rapport à ça, et par rapport à ce que vous dites à l'instant, Gabriel,
il y a des gros, c'est compliqué. Il y a des gros et des vilains,
oui,
des
mais
mecs.
Justement, c'est compliqué quand on a ce positionnement debout, d'avoir une diversité de physique.
C'est
parce que...
faute des téléspectateurs. On peut regarder une femme grosse et qui serait... En revanche, très percutante par sa présentation et ne pas copier les unes et les autres.
Parce que les directeurs de rédaction accepteraient et les présidents de rédaction accepteraient d'avoir une femme avec des formes grosses.
Mais même une Miss Météo, une Miss Météo, elle ne serait pas grosse.
Ah oui,
en fait.
Faut qu'elle soit maigrelette.
Et déjà, on dit Miss Météo. Ouais. Hein,
Paul.
Oui, au-delà de la minceur, il y a aussi un...
Pardon, mesdames.
Qui revient très souvent. Oui. Hein, je reprenais le rapport du HCE, du Haut Conseil à l'égalité, où il note que 60% des présentateurs ont plus de 50 ans et qu'effectivement, si on regarde la diversité de la télévision française, des femmes de plus de 50 ans à l'antenne, il n'y en a pas tant que ça. Des femmes qui ont cheveux blancs à l'antenne, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, il y a aussi tout un tas de biais au-delà de la minceur qui viennent encore contraindre le corps des femmes.
Et c'est aussi sur les émissions d'information qu'il va falloir mener les combats dont vous parliez tout à l'heure. Et parce pas uniquement sur les émissions de divertissement et de télé-réalité.
Combat continue. Hein.
Merci Mémona, merci Gabriel, merci Paul. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur Image.